Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons avec Monsieur Bourgès-Monoury pour l'émission Bienvenue en Europe. Et c'est vrai que actuellement, l'Europe passe au second plan derrière les élections françaises, les primaires, les élections américaines, mais que en même temps, on perçoit ici et là quelques retours de l'Europe. Certains disent « Ah oui, mais il faudrait prendre telle mesure. Ah oui, mais ça ne peut se faire qu'au niveau européen. » Donc, on sent que chez certains, il y aurait un espèce de « faisons appel à l'Europe », tandis que d'autres se réjouissent en disant « Eh bien, tuons l'Europe ». Alors, parlons-en. Un des éléments de l'actualité, c'est le traité de libre-échange avec le Canada, et oui, qui a été avalisé. Alors là aussi, on a pu voir qu'il y avait une réelle démocratie, puisque c'est une région de Belgique qui a pu finalement amener à reconsidérer ce traité, y réfléchir, et puis finalement avant de le paraffer.
Oui, lors de notre dernière émission, on n'avait pas encore la réponse à cette interrogation qui était est-ce que ce traité avec le Canada va entrer en vigueur ou pas. Alors il faut dire qu'entre-temps, donc, il est bien entré en vigueur, à titre provisoire, faut-il le rappeler, parce qu'il y a une procédure qui n'est pas évidente à comprendre, mais il entrera en vigueur lorsque le Parlement européen aura donné son feu vert, ce qui ne saurait tarder. Alors après, il y a, et c'est quand même nouveau dans les procédures de politique commerciale au niveau européen, c'est que il est convenu désormais, en accord avec la Commission européenne qui avait la haute main sur et le monopole sur la politique commerciale, dire que les parlements nationaux peuvent être associés, et ça dépend évidemment de chaque État de s'organiser, à tout accord pour donner son aval. Donc si bien que on est quand même dans une certaine incertitude dans la mesure où, au fil des ans, eh bien, parce que cela risque de prendre beaucoup de temps, qu'il y ait tout à coup un autre parlement dans un pays qui ne donne pas son feu vert. Alors, évidemment,
ça fait
là,
désordre un peu.
Ça fait un peu désordre. Il y en a beaucoup qui reprochent à la Commission, et en particulier au président Juncker, d'avoir modifié cette approche, parce que jusqu'à présent, la Commission proposait, sur base d'un mandat qu'elle reçoit des ministres, donc des États, des chefs d'État, pour négocier au nom de tous. Et lorsqu'elle a négocié, elle revient devant les États, c'est-à-dire à travers le Conseil, et devant le Parlement européen, et l'affaire se joue à ce moment-là pour dire est-ce que...
C'est close. Alors là, on rajoute un État.
Et là, maintenant,
on ajoute un
Juncker
un
a considéré, le président Juncker, président de la Commission européenne, a considéré que l'état de l'Europe actuelle est tel qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la dimension démocratique à ce niveau-là, au niveau européen, si bien qu'il a dit qu'il faut associer beaucoup plus les représentants élus au niveau national. Et donc, dorénavant, il y a cette possibilité pour les États de faire participer leurs propres parlements nationaux. Mais évidemment, il y en a d'autres qui disent « Mais oui, mais dans ces cas-là, on n'arrivera à rien du tout parce qu'il va y avoir des surenchères. »
Est-ce qu'on ne s'oriente pas dans cette... De ce fait, vers une Europe à plusieurs vitesses. Finalement, il y a les États qui accepteraient le traité, puis les États pour lesquels non.
Ben, ceci est possible, selon les traités. Mais là, au niveau de la politique commerciale, ça serait quand même assez complexe. Parce que normalement, c'est un marché unique qui est ouvert ou non, et selon certaines règles et normes, à l'extérieur. Donc s'il y a un accord à l'extérieur, avec un État tiers, eh bien, logiquement, c'est ou tout le marché, mais pas une partie du marché, ou alors on se retrouve dans le cas britannique, et qui est suffisamment compliqué, on le voit en ce moment. Mais en tout cas, ce qui est, après ce périple, cet épisode au niveau de la Belgique, il y avait la Wallonie, donc le Parlement de la Wallonie, dans l'État fédéral belge, avait bloqué la procédure, et puis finalement, ils ont marqué leur accord, mais c'est un accord qui en fait est un peu, disons que c'est un faux accord dans la mesure où, d'ailleurs le Premier ministre belge l'a reconnu lui-même, il a dit que tout ce qu'on reprochait à cet accord, en fait c'était déjà dans les textes hein, et que c'est déjà prévu depuis 2009 et que le CETA ne peut pas changer les normes européennes de toute façon, et que le modèle social européen sera toujours le plus fort. Donc on a fait monter les enchères d'une manière assez politique, mais en tout cas, ce qui est intéressant à souligner, c'est quand même cette dimension démocratique, parce que là, il y a le fait que, au moins, il y a une dimension civique, à la limite, des citoyens qui se mobilisent, à tort ou à raison, mais en tout cas, qui discutent de l'avenir de l'Europe. Donc il y a un aspect à la fois préoccupant en ce qui concerne les procédures, parce que ça ajoute beaucoup de complexité au système, mais d'un autre côté, il y a cette dimension démocratique.
Alors c'est vrai aussi qu'il y a cette dimension démocratique, mais on a aussi l'impression aussi que, quelque part, c'est donné de la place au mensonge, puisque quelque chose qui existe déjà, on fait comme si ça n'existait pas, et c'est après de négociation, on dit, mais oui, ça, on a obtenu ça, alors que ça existe déjà. Et j'ai l'impression que l'on a quelquefois un jeu démocratique qui ressemble à un jeu de dupes. Et notamment, bien on peut dire, alors parlons un peu de ces élections américaines, ça nous éloigne de l'Europe, mais en même temps, on a l'impression que M. Trump s'est fait élire aussi, mais vu d'ici, donc de quel droit posons-nous ce jugement, avec quelques aspects mensongers. Je pense par exemple, nous allons construire un mur avec le Mexique. Mais il me semble que déjà le mur existe déjà partiellement et largement.
Oui, il y a beaucoup d'avancées, de déclarations de ce nouveau président qui, lors de la campagne, sont tout à fait en porte-à-faux par rapport à la vérité. Et ça, maintenant, c'est démontré. Mais ce qui est d'intéressant, il faut quand même qu'on se tourne, parce qu'on est dans un monde mondialisé, et donc ce qui se passe au niveau américain nous intéresse de près, puisque d'une part il y a des relations entre les États-Unis et l'Union européenne de longue date avec chacun de nos pays. Il y a à travers l'OTAN toute une série d'accords qui sont tout à fait importantes pour notre propre sécurité. Donc il y a des effets forcément du fait que ce personnage vient d'être désigné comme le nouveau président en janvier prochain. Donc il y a des effets sur l'Europe. Et disons qu'à ce stade actuel de ce que l'on connaît, c'est qu'il y a d'une part ceux qui se sont réjouis au niveau européen de cette élection.
Repli nationaliste de part et d'autre.
Comme par hasard, ce sont ceux qui sont jusqu'au boutiste pour un repli sur soi, comme vous venez de le souligner. Et là, on retrouve naturellement tous les souverainistes, et en particulier au niveau français, le Front National. Mais il y a l'équivalent du Front National dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne qui sont sur le même plan et le même niveau. Et donc, il y a en Europe actuellement une montée de ce repli sur soi qui est à la fois préoccupant, dans la mesure où il fait un peu effet de boule de neige. Alors pour eux, l'élection de Trump, c'est au contraire une porte qui s'ouvre en disant, vous voyez, ça marche là-bas, donc ça devrait, et pourquoi pas, marcher aussi chez nous. Alors on voit déjà les réactions au niveau de la Hongrie, de la Pologne, de la Bulgarie maintenant. Un nouveau président vient de se faire élire dernièrement, qui est à la fois pro-Trump, et il était parmi les premiers à s'en réjouir, et également pro-russe. Donc on se retrouve dans un espèce de paradoxe. Donc ça, c'est un côté des choses. Le deuxième aspect, c'est du côté de ceux qui, des pro-européens, disons les choses carrément, qui au contraire disent, vu la situation, il faut au contraire profiter de ce que l'Amérique risque de se replier sur soi pour prendre en main notre propre destin et ne plus s'en remettre à d'autres, et notamment au plan de la défense et de la sécurité. Et donc dans les jours qui viennent, il y a des discussions qui vont se tenir à Bruxelles. C'est Michel Barnier d'ailleurs qui a un mandat spécial auprès du président de la Commission européenne qui est chargé du suivi de cette affaire pour voir qu'est-ce que l'on peut faire pour aller plus avant avec les pays qui voudront bien le suivre pour développer une défense commune au niveau européen, parce qu'au niveau de la sécurité et de la défense, depuis qu'on n'a pas voulu en 1954 avoir une armée européenne commune à tous nos États et un armement commun, eh bien, on s'en est remis totalement aux Américains et à l'OTAN. Et donc, il y a une faille dans notre système, en quelque sorte, face à une Russie qui, ces derniers temps, en tout cas, est remontée en puissance, c'est le cas de le dire, et avec tous les dangers qui sont là à nos portes, en particulier du côté de l'Ukraine et ailleurs. Donc, c'est un tout. Et il faut voir cette affaire américaine comme à la fois un bien si l'on redonne à l'Europe une dimension et un projet. Et là aussi, il faudrait quand même rappeler que si on est pro-européen, comme nous le sommes ici à cette antenne, ce n'est pas pour faire du béni oui-oui un peu stupide, mais parce que c'est vraiment notre avenir qui en dépend et qu'un État seul, la souveraineté, elle ne peut être que partagée, autrement elle n'existe plus dans le monde actuel. Donc c'est une évidence qu'il faut s'unir, c'est pas pour rien qu'on dit que l'union fait la force, mais encore faut-il s'en donner les moyens.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de poursuivre.
Aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow.
Toujours dans l'émission Bienvenue en Europe sur Radio Grand Ciel. Alors nous évoquions les conséquences de l'élection du président Trump aux États-Unis qui amène les Européens à s'apercevoir que l'OTAN est peut-être une organisation insuffisante pour se protéger et qui sont vite allés se rencontrer à Bruxelles en disant « Eh bien, construisons quelque chose ensemble. » Alors il y a peut-être effectivement à construire une défense commune, mais il y a peut-être aussi à reprendre certaines bases, peut-être à réfléchir à un avenir commun, et notamment face à la mondialisation, dans cette mondialisation, dans ce monde qui change, peut-être du côté du numérique, du côté d'un certain nombre de points sur lesquels l'Europe est en pointe.
Oui, vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect. Il y a un besoin d'Europe, mais à condition que cette Europe-là ne soit évidemment pas celle que l'on voit actuellement marcher, ou plutôt ne pas très bien marcher, compte tenu du contexte que l'on connaît tous, des difficultés avec cette mondialisation qui est à la fois décriée, mais qui en même temps a bénéficié au plan de tout le monde. Quand on voit des pays qui ont émergé, c'est quand même pas si mal, que la pauvreté au niveau de la planète a baissé malgré de très grandes inégalités. Donc il faut reconnaître qu'à travers les outils actuels du numérique en particulier, qui vont se développer à une vitesse grand V, eh bien on va se retrouver dans un monde encore davantage connecté que ce n'est le cas actuellement. Donc il faut ne pas se cacher de cet avenir qui sera forcément ouvert. Donc il faut essayer, évidemment, de préserver nos propres intérêts, mais effectivement d'y prendre sa place de manière à la fois avantageuse et profitable, mais aussi pour le bien de tous. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et ce qui est un peu désolant, il faut bien le reconnaître en ce moment, c'est qu'on ne voit pas au plan européen des responsables s'emparer véritablement de ce type de sujet pour dessiner une vision à long terme, à moyen terme et à court terme. Alors il y en a qui disent il faut tout mettre par terre, on va refonder l'Europe, il faut d'autres traités, ceux-là ne sont pas corrects.
Ça c'est un côté un peu franco-français, on veut toujours faire des révolutions, alors que peut-être il y a des évolutions à faciliter.
Tout à fait, et donc cet aspect des choses est, pour ne pas dire un peu simpliste, parce que les textes actuels nous permettent d'aller de l'avant sans avoir besoin de refonder tout et de mettre tout par terre. Et d'abord, pour fonder quelque chose, il faudrait que nos voisins, nos partenaires soient d'accord avec nous. Parce qu'on a un peu trop cette tendance en France de voir l'Europe comme une espèce de grande France élargie. Au niveau du continent. Ça, c'est un vieux réflexe qui est évidemment malencontreux parce qu'on oublie que chacun des autres côtés de la frontière a également son mot à dire et que c'est au contraire en ayant, on le dit à nouveau, une souveraineté qui est partagée, ce qui ne veut pas dire que notre souveraineté est diminuée pour autant, bien au contraire. Donc il faut essayer de créer un effet de levier. Donc ce n'est pas nécessaire de refonder l'Europe, mais il faut dire que le contexte actuel fait, vous avez souligné il y a un instant, cette affaire du Brexit avec les Britanniques, mais du côté des Polonais, des Hongrois, des pays de l'Est, on vient de toucher un mot sur la Bulgarie, il y a beaucoup de ces pays qui sont pas nécessairement favorables à ce qu'on fasse trop sur le plan européen, sinon d'essayer de profiter au maximum de sa dimension commerciale. Et là, c'est une grave erreur parce que on ne peut pas mieux se développer si parallèlement on essaie de refermer les frontières et se cloisonner derrière.
Puis le commerce n'est pas le tout de l'homme. Et actuellement, on a quand même une réflexion aussi sur la culture, sur les échanges. Le numérique étant une partie de cette culture. Et alors, de ce point de vue-là, en évoquant le Brexit, c'est intéressant de voir qu'en Angleterre, pour couper avec la décision populaire, si j'ose dire, avec le référendum, Theresa May a été chercher du côté des institutions britanniques et que là, on a l'impression que c'est repousser les échéances.
Mais
pour justement rester en Europe, ou en tout cas pour différer... le moment où il va falloir dire il y a rupture, coupons.
Il y a à la fois, il y a eu le référendum que l'on sait, là aussi on l'a souligné avec la situation aux États-Unis où beaucoup de contre-vérités ont été développées lors de cette campagne, mais le résultat c'est que le peuple britannique s'est quand même prononcé à une majorité claire pour la sortie de l'Europe, de leur pays. Il se trouve que ceux qui étaient pro-européens ont introduit devant la Haute Cour de justice britannique un recours pour dire « mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système, un référendum, c'est pas prévu, ça ne doit pas engager le pays de cette manière-là ». Et la Haute Cour britannique a rendu son jugement et sa décision ces derniers temps en disant que effectivement c'est le Parlement britannique qui doit se prononcer. Donc il est le seul à pouvoir déclencher le fameux article 50 qui prévoit la sortie d'un État membre de l'Union européenne. Donc maintenant, le jeu est à nouveau ouvert en créant une grande confusion qui va se traduire nécessairement par de nouveaux délais. Donc Theresa May qui disait qu'au mois de mars, elle introduirait le recours à l'article 50 risque d'être retardé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Parlement britannique n'est pas du tout en faveur du retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Donc on se trouve devant un espèce de paradoxe. C'est ce Parlement qui, s'il veut,
qui a introduit le
s'il veut respecter la décision populaire, doit faire amende honorable et voter contre ses propres convictions. Alors, comment cela va-t-il se passer? On le verra. Mais ceci ajoute à la confusion, comme on vient de l'indiquer. Et c'est un peu préoccupant parce que, à la limite, ça regarde que les Britanniques. Mais le problème, c'est que du côté du continent européen, eh bien, il n'y a pas justement ce fameux rebond ou en tout cas cette précision sur ce que doit être l'Europe en dehors. Avec les Britanniques à l'extérieur. Et là, on en revient à ce qu'on a toujours dit dans cette émission. Il nous faudrait un nouveau Jacques Delors qui viendrait là pour dire voilà.
Jacques Delors ou tout autre.
Ou tout autre. Mais en tout cas, c'est le dernier en date qui avait donné une ligne de conduite à suivre et qui a eu un certain succès en introduisant notamment le marché unique.
Eh bien, nous allons faire une seconde pause avant d'aborder les questions de politique extérieure.
J'ai le cafard des fanfares, le pamplonne monotone. Petit déjà à l'écart des ambiances bouglionnes. Quand la joie s'anime et rend les gens heureux. Dans le poumon j'ai une épine, moi je reste pas au milieu. Le manoï m'ennuie, ciao le chahut. Plus de bras dans la holla. Hi, hi. Tiens, revoilà le cafard des fanfares. Dans les foires, sa foire, c'est le cafard des fanfares. Faudrait appeler ça le cafard des fanfares. C'est encore là le cafard des fanfares.
Bien, toujours dans l'émission Bienvenue en Europe, au niveau de la politique extérieure, c'est vrai qu'il y avait eu, à cause des flux migratoires, on avait d'une certaine manière confié à des États tiers, en périphérie européenne, le soin de faire un peu la police aux frontières, et notamment vis-à-vis des populations qui viennent du Proche-Orient, et notamment des accords avec la Turquie. Or, il s'avère qu'en Turquie, le coup d'État manqué a amené un raidissement de ce pays, mais aussi a amené un grand recul, semble-t-il, de la démocratie dans ce pays. Et on voit mal comment la Turquie peut envisager de faire partie de l'Europe, puisque derrière ce choix de confier à la Turquie la police aux frontières, il y avait d'une certaine manière une main tendue vers une Europe avec la Turquie. Et en fait, l'évolution interne de la Turquie montrerait que, eh bien non, la Turquie s'éloigne de l'Europe.
Tout à fait. Et c'est vraiment préoccupant de voir ce pays qui devient de plus en plus ce qu'il est devenu, c'est-à-dire dans les mains d'un genre de dictature et de fausse démocratie. Et en plus, ce pays est toujours officiellement candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Alors là aussi, on sait très bien que ceci est un peu une utopie, non seulement dans les circonstances actuelles, mais aussi compte tenu de la géographie, de l'histoire et beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Mais le paradoxe, vous l'avez souligné, c'est qu'on n'a des accords avec la Turquie parce que d'abord elle est à nos frontières, mais ce type d'arrangement n'est pas à la gloire de l'Europe, c'est simplement parce que nous n'avons pas été capables, c'est-à-dire qui n'a pas été capable, ce sont les États, donc nos gouvernements, qui n'ont pas été capables de mettre sur pied une politique migratoire qui puisse véritablement porter ce nom. Le contrôle aux frontières, du côté de la Grèce, du côté de l'Italie, etc. Alors il y a beaucoup d'efforts qui ont été développés, mais le premier plan Juncker qui avait été proposé pour mettre de l'ordre dans tout cela était carrément mis de côté par les États qui n'en ont pas voulu en disant bah non, nous, chacun pour soi et voilà où on en est.
Alors donc, c'est vrai que c'est tout, pardon.
Mais c'est simplement que on a une absence de politique au plan européen qui nous coûte très cher, parce que vis-à-vis de la Turquie, eh bien, on est en quelque sorte dans des mains qui ne sont pas les nôtres, pour essayer de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlé. Alors parallèlement, il faut dire aussi que, et ça c'est un élément d'actualité ces temps-ci, c'est qu'il y a du côté de Chypre, qui fait partie de l'Union européenne, et qui, comme chacun sait, est partagé entre une partie de langue grecque et une partie de langue turque, et qui est rattaché du côté de la Turquie pour la partie turque. Il y a donc des négociations de longue date pour essayer de réunir ce pays. Chypre a rejoint l'Union européenne en 2004 et honnêtement, beaucoup l'ont souligné à l'époque, il aurait fallu attendre que ce pays se réunifie avant d'envisager une adhésion à l'Union européenne. Mais en tout cas, le sujet est sur la table à nouveau en ce moment. Il y a des négociations qui, le 11 novembre, ont échoué pour remettre d'accord les éléments chypriotes, grecs et turcs. Et les discussions vont reprendre le 20 novembre à Genève. Donc on va voir ce que cela va donner. Mais compte tenu du contexte avec la Turquie, on voit mal comment, là aussi, en l'absence d'une grande vision clair du côté de l'Union européenne, on peut vraiment aller de l'avant. C'est un exemple par rapport à ce qui se passe donc à l'extérieur. Les relations avec la Turquie sont très importantes, on le voit au niveau de l'OTAN, mais là aussi il y a beaucoup d'hypocrisie et le dossier syrien en dit quelque chose. L'Union donne quelques crédits aux pays qui sont Jordanie, Liban, etc., pour essayer de d'endiguer le flot des réfugiés. Mais on voit bien que là aussi, c'est le défaut, l'absence totale de vraie politique migratoire qui crée cette situation.
Alors on déplore un peu cette politique migratoire. On évoque le fait d'avoir fourni à la Turquie le soin de nous défendre. Mais le paradoxe, c'est que en Turquie même, il y a une minorité qui actuellement se trouve opprimée et qui commence à dire, à appeler l'Europe au secours et qui commence aussi à demander à ce que ces populations qui n'ont pas l'heure d'être dans les mêmes vues que le président Erdogan demandent aussi à venir en Europe comme réfugiés politiques. Donc là, c'est quelque chose aussi paradoxal, c'est qu'en fait, il y a non seulement à recevoir des réfugiés syriens que la Turquie est chargée de contenir, mais en plus, vraisemblablement d'ici quelque temps, si la Turquie durcit son système et, disons, emprisonne ses citoyens, les met dans des situations impossibles, eh bien que nous ayons ici des migrants au titre des droits de l'homme. Des migrants de Turquie, là.
Oui, c'est vu de l'extérieur, ça aussi c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez attention à cela, on le souligne peut-être pas assez, mais l'Europe vu de l'extérieur, c'est quand même un havre de paix. Ce sont des valeurs démocratiques. Donc, et dans le monde actuel, il n'y a pas beaucoup d'endroits de ce type. Donc, c'est normal qu'il y ait un attrait pour venir chez nous. Et nous, on ne le voit pas assez de l'intérieur, parce que évidemment, on voit qu'au bout de son nez, et nos défauts et pas nos qualités. Mais donc, il faut absolument réagir et avoir une politique claire, et on rejoint ce qu'on avait dit au départ.
Eh bien, sur ce, nous nous retrouverons le mois prochain pour regarder ce qui se passe en Europe, en espérant que cette construction européenne va s'approfondir. Bonne semaine à tous, au revoir.